Bonsoir à tous. Je me réjouis de partager la parole de Dieu avec vous. C'est toujours un honneur d'être là et de pouvoir partager ce que le Seigneur a à nous dire au travers de sa parole, n'est-ce pas? Nous allons prier ensemble pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'adorons. Merci pour ce temps que tu nous permets de mettre à part. Nous sommes à l'écoute de ta parole. Utilise-moi simplement comme un canal par lequel tu veux parler à ton peuple ce soir. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, il se trouve qu'au mois de janvier, j'ai été invité au groupe de jeunes à partager une prédication avec eux. Et à l'occasion de la nouvelle année, j'ai eu à cœur de partager quelque chose avec eux sur le bonheur. Parce que je trouvais que c'était très à propos, parce que le mois de janvier est le mois où on se souhaite, n'est-ce pas, les uns aux autres, une bonne année et surtout, en fait, de meilleurs vœux. Et puis une année remplie de bonheur. Parce que la quête, la recherche du bonheur, c'est un élément constant dans le cœur de l'homme. Vous savez, il y a un philosophe qui s'appelle Thomas d'Aquin, qui vivait au XIIIe siècle, qui disait la chose suivante, « Il y a en chaque âme une soif de bonheur et de sens. » XIIIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle, presque 700 ans plus tard. Et si vous allez dans n'importe quelle librairie, vous allez voir comment les rayons des librairies sont remplis de livres, d'ouvrages qui parlent de comment avoir le bonheur, comment acquérir le bonheur. L'idée ce soir, ce n'est pas de reprêcher le message que j'ai apporté en janvier au groupe de jeunes, mais c'est d'aller un peu plus loin avec vous ce soir. C'est de faire un pas de plus avec vous sur une des facettes du bonheur. Parce que vous savez, la quête du bonheur, le chrétien, l'enfant de Dieu, n'est pas exempte de cela. L'enfant de Dieu cherche également le bonheur. Je cherche le bonheur, je cherche à être heureux. Et je pense qu'il en est de même pour vous, pour chacun de vous ce soir. Regardez ce que disait déjà Salomon dans Ecclésias, chapitre 2, verset 1. Ecclésias disait la chose suivante, « Lui qui avait tout, la richesse, la gloire, il disait, j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose de très important ce soir, avant d'entrer dans le vif du sujet. Contrairement à tout ce qui nous est dit, contrairement à toutes nos perceptions courantes, la qualité de notre existence ne dépend pas de la superficie de notre demeure. La qualité de notre existence ne dépend pas des millions de francs que nous avons sur notre compte en banque. Ces choses sont utiles. Elles peuvent améliorer notre confort extérieur. Mais vraiment, ce qui est important, c'est la qualité spirituelle, notre qualité, notre connexion avec Dieu. Et c'est pour cela que ce même Salomon, dans Proverbe 14, ce même Salomon qui avait tout, encore une fois, il dit, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Mes frères et sœurs, le bonheur est une affaire d'attitude intérieure. Et lorsqu'on parle d'attitude, quoi de mieux que de se tourner vers les béatitudes, n'est-ce pas? Et on va lire ensemble Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Quel programme, n'est-ce pas? Mais vous savez, dans les béatitudes, Jésus ne donne pas un catalogue de consignes. Ce n'est pas non plus un évangile magique, ce n'est pas des mantras à réciter tous les matins et ainsi on sera heureux. Loin de là. Ce qu'on voit dans les versets que nous venons de lire, on voit que Jésus donne un encouragement à cette foule, mais un encouragement qui est basé sur la réalité de la vie. Ici, Jésus nous explique sans détour que la vie dans laquelle nous sommes est une vie difficile, c'est une vie cruelle, il y a des souffrances, il y a des persécutions. Mais ce qu'il dit à cette foule, et ce qu'il nous dit encore ce soir, c'est que malgré tout, nous pouvons être heureux. Amen. Nous allons le voir. Les béatitudes, vous savez, constituent le bonheur selon Dieu. Le bonheur selon Dieu. Non pas le bonheur selon le monde, mais le bonheur selon Dieu. Dans ces versets que nous avons lus, il y a plusieurs attitudes qui sont relatées par Jésus. Le temps nous est compté, nous ne les verrons pas toutes. Mais j'aimerais m'arrêter ce soir sur une attitude qui a retenu mon attention dans Matthieu chapitre 5, ses 12 premiers versets. Il se trouve dans le verset 5 de Matthieu 5. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » La version de ma Bible, c'est une version Louis II, et il est dit « Heureux les débonnaires ». J'ai recherché la définition officielle de débonnaire, et le petit Larousse nous dit que « débonnaire, c'est celui qui est bon jusqu'à l'extrême ». Dans d'autres versions, peut-être que vous avez d'autres versions de la Bible, ce même mot débonnaire peut être traduit par humble, des fois par humble et doux, et dans d'autres versions de la Bible, il est traduit tout simplement par doux. Donc on peut retrouver dans certaines versions de la Bible la chose écrite ainsi, heureux les humbles et les doux, car ils hériteront la terre, ou bien tout simplement heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Mais j'ai été un peu plus loin. Parce que lorsqu'on parle de douceur, lorsqu'on parle de doux, on a toujours l'image d'une personne faible, n'est-ce pas ? Ah, il est doux, on peut lui faire ce qu'on veut. Mais j'ai été un peu plus loin, j'ai été dans la version d'origine, dans Matthieu chapitre 5, le verset 5. La version d'origine en grec, et je vais vous avouer que jusqu'à ce matin, je n'étais pas sûr de la manière dont on prononçait le mot grec, j'ai fait appel à Jean-Paul pour cela. Matthieu chapitre 5, verset 5, la version grecque nous dit que débonnaire, humble, doux, le terme qui est utilisé à l'origine, c'est praus. Praus qui a, mes frères et sœurs, trois sens que nous allons voir ce soir. Praus qui signifie quelqu'un, une personne qui maîtrise ses émotions dans ses relations avec les autres. Premier sens. Le deuxième sens de praus, de doux, douceur, c'est celui qui a une paix intérieure, qui ne se laisse pas submerger, qui ne se laisse pas vraiment abattre par les événements qui lui arrivent. Et enfin, le troisième sens que nous allons voir de praus, c'est celui qui est flexible, malléable, souple. Voilà ce que Jésus entend par doux, la douceur. Voyons maintenant notre premier point, praus, douceur, doux, celui qui est capable de maîtriser ses émotions dans les relations avec les autres. Vous savez, lorsque Jésus parle à cette foule, il faut vous imaginer le contexte historique. Lorsque Jésus parle à cette foule se trouve dans un territoire qui est occupé par les Romains depuis plusieurs années. Ils sont sous occupation de l'Empire romain. Et vous pouvez l'imaginer, comme tout pays, comme tout peuple sous occupation, il y a des soulèvements. Et ces soulèvements sont férocement réprimés par l'Empire romain. Et c'est dans ce contexte, c'est à cette population-là, c'est à cette foule que Jésus va dire « Heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui arrivent à maîtriser leurs émotions dans les relations avec les autres. » Vous pouvez imaginer combien c'était difficile, combien c'était un défi pour ces personnes d'entendre cela. J'aimerais vous dire ce soir, toute proportion gardée, ce défi est également le nôtre. Nous ne vivons pas, gloire à Dieu, dans un pays sous occupation, mais ne sommes-nous pas dans un monde marqué par les compétitions, la concurrence, les jalousies, les querelles ? Et tout cela attise des animosités, tout cela attise la colère et met à mal la gestion de nos émotions. Dans un tel environnement, dans un tel contexte, comment rester doux ? Comment maîtriser nos émotions dans les relations avec les autres ? Mes amis, mes frères et sœurs, c'est d'autant plus difficile que la douceur ne fait pas partie de la nature humaine. Nous ne sommes pas naturellement doux. Je ne parle pas de ceux qui ont une attitude extérieure douces, mais qui à l'intérieur d'eux-mêmes sont remplies de colère. Mais je parle vraiment de ceux et de celles remplies de l'Esprit du Seigneur et qui sont capables de manifester le caractère de Christ, quelles que soient les circonstances. C'est ceux-là, c'est cette douceur-là que Jésus recherche en nous. C'est loin d'être facile, je vous l'accorde. C'est loin d'être facile. Et c'est pour cela que, dans Proverbe 16, verset 32, la Bible va dire la chose suivante, parce que la Bible est pratique, mes frères et sœurs. La Bible reconnaît que ce n'est pas quelque chose qui est très facile. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 32, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Et à l'époque où ce verset a été écrit, les villes, c'était des villes fortifiées. Il fallait y aller. Et là, la Bible dit, « Celui qui est maître de lui-même est plus fort que celui qui prend des villes. » Alors, il y aurait beaucoup à dire ce soir sur la gestion de nos émotions. La Bible a plein de versets, plein d'enseignements là-dessus. Mais j'aimerais seulement vous laisser avec deux principes pratiques que vous pouvez commencer à utiliser dès ce soir, à la sortie de ce culte. Premier principe, dans Romains 12, verset 18, il nous est dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » En vérité, dans ce verset, il y a un double message pour nous ce soir. Il nous est dit, « Soyez en paix avec tous les hommes. » Oui, parce que nous devons être des artisans de paix. Nous sommes des ambassadeurs de paix parce que notre Père Céleste est la paix. Nous sommes des ambassadeurs de paix. Mais comme je vous ai dit, l'évangile est un évangile pratique. Autant que cela dépend de vous. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des situations, oui, où la paix avec les autres ne sera pas possible. Mais autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Premier principe. Deuxième principe, mes frères et sœurs, évitons les disputes, les querelles, les débats sans fin qui conduisent tôt ou tard à de l'animosité, à de la colère. Regardez ce que nous dit Proverbe 17, verset 14. Proverbe 17, verset 14, « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, qu'est-ce qu'il faut faire ? Retire-toi. Retire-toi. » Je ne sais pas ce soir dans quel conflit tu es, dans quelle situation où tu te dis, « Là, je veux avoir raison. Je veux à tout prix avoir raison. Venger mon honneur. » Le Seigneur te dit, « Retire-toi. Retire-toi avant que ça ne devienne trop tard. Retire-toi. » Sachons, mes frères et sœurs, éviter toutes ces situations où il y a des débats sans fin qui conduisent à de l'amertume et qui sont là, qui nous rongent de l'intérieur. Nous ne pouvons pas être en paix, nous ne pouvons pas être heureux. Retire-toi ce soir. Et ce deuxième principe, il est aussi vrai, même dans la défense de notre foi. Vous savez combien de guerres ont été perpétrées, ont été menées au nom du christianisme, je ne parle même pas des autres religions, parce qu'il fallait à tout prix convertir certains peuples, et ça a été fait avec des armes. Mais le Seigneur nous dit, 1 Pierre 3, 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, comment ? Avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Même dans la défense de notre foi, nous devons faire preuve de douceur. Amen. Gestion de nos émotions. Mes frères et sœurs, Dieu cherche en nous des hommes et des femmes de paix. Comme je l'ai dit, non seulement parce que nous sommes ses ambassadeurs sur terre et que lui est la paix et que nous devons être des ambassadeurs de paix, mais aussi parce que notre bonheur est lié à la qualité des relations que nous entretenons avec les autres. Notre bonheur est lié à la qualité de la relation que nous entretenons avec les autres. Il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé des études bibliques par correspondance. Et un des premiers cours que j'ai pris, c'est sur la relation d'aide. Et vous savez, ce qu'on vous apprend dans la relation d'aide, même dans les thérapies psychologiques en général, la première étape, lorsque vous allez voir un psychologue, la première étape, je ne sais pas peut-être si quelqu'un a vécu quelque chose de vraiment terrible dans sa jeunesse, la première étape dans toute relation d'aide, même dans une thérapie psychologique, le thérapeute va vous demander, première étape, déjà, de chasser l'amertume, de faire la paix avec votre passé. Ça va être la première étape avant toute chose. Et vous savez, la Bible ne dit pas autre chose. La première étape, si nous voulons vraiment vivre une vie de paix, nous devons veiller à la qualité de notre relation avec les autres. Dans Hébreux 12, verset 14, La Bible nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » L'auteur des Hébreux ne dit pas « Recherchez la paix ou la sanctification. » C'est « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous devons reconnaître que ce n'est pas facile. Ce n'est pas dans notre nature de faire preuve de douceur, de ce praos auquel Jésus nous appelle ce soir. Toi et moi, nous ne pouvons pas arriver cela tout seul. Nous ne pouvons pas arriver à le faire tout seul. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous aider à maîtriser nos émotions dans nos relations avec notre prochain. Et alors, nous pourrons cheminer dans le bonheur. Amen. Maîtriser mes émotions dans les relations avec les autres. Deuxième élément que j'ai cité en introduction de ce praos, c'est que ça définit l'état d'une personne qui a une paix intérieure, une telle paix, une telle disposition qu'il ne se laisse pas dépasser par les événements. Et vous savez, la Bible ne fait pas d'angélisme. La Bible est pratique. Lorsque Dieu parle de paix intérieure, il ne s'agit pas d'absence de tristesse. Dieu ne nous dit pas de ne pas être triste. Ça arrive d'être triste. Ça arrive de passer par des moments où nous serons découragés parce qu'il y a des situations qui arrivent dans nos vies. Nous passerons par la tristesse, nous passerons par des découragements face à diverses épreuves dans nos vies. Et de nombreux hommes dans la Bible sont passés par là. Prenez l'exemple d'Élie, 1 Roi 19. Élie, aussi grand prophète qu'il a été, Élie a confondu les prophètes de Baal. Il recevait directement les instructions de Dieu. Mais Élie, dans 1 Roi 19, verset 4, à un moment donné, lorsque Jézabel va lui envoyer un messager pour attenter à sa vie, pour lui annoncer qu'il va mourir, Élie va connaître la dépression. 1 Roi 19, verset 4, Élie va dire, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme !» Prends mon âme. Prends mon âme. Oui, parce que il y a des situations dans la vie par lesquelles nous allons passer. Ce sera difficile, ce sera compliqué. Mais tout comme pour la maîtrise de nos émotions, nous ne pourrons jamais y arriver par nos propres forces. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous aider à traverser, pour nous aider à avoir cette paix intérieure pour faire face à ces épreuves. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à relever la tête dans nos difficultés. Il n'y a que Dieu. Je ne sais pas par quelle situation tu passes ce soir. Je ne sais pas à quel point ton intégrité physique a été attaquée, ton intégrité spirituelle, ton intégrité psychologique. Je ne sais pas à quel point ta famille connaît des difficultés ce soir, à quel point tu es en attente d'un diagnostic, à quel point tu es malade, à quel point au sein de ton foyer il y a des soucis qui ne vont pas, à quel point tu attends une intervention de Dieu dans ta sphère économique. Et j'aimerais te dire deux choses ce soir. Deux choses. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Non seulement il est là, mais il prie pour toi. Il prie pour toi. Remarquez ce que dit Jésus dans Luc 22. Jésus parle à Pierre et il va lui dire, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que tu ne défailles point. » Cribler comme le froment. Cribler. Le verbe cribler, c'est percer par beaucoup d'endroits. C'est ça la définition de cribler. Je ne sais pas à quel point ta vie est criblée ce soir, mais le Seigneur Jésus prie pour toi ce soir. Et au-delà même, non seulement il prie pour toi, mais il intervient, il veut intervenir dans ta vie. Il va intervenir. Je parlais d'Élie tout à l'heure, mais regardez, comment a fini cette déclaration d'Élie? Élie dit, « Seigneur, prends mon âme, j'en peux plus. » Il est dans un état dépressif. 1 Roi 19, verset 5. Juste après le verset 4 où Élie demande la mort, 1 Roi 19, verset 5, « Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange !» Mange, prends des forces. Manger, c'est prendre des forces. Élie, lève-toi, prends courage, prends des forces. Le Seigneur te dit ce soir, « Ma sœur, lève-toi, prends des forces, mange, prends des forces dans ta situation, prends courage. Un ange, l'ange de l'Éternel veut intervenir dans ta vie ce soir. » Je ne sais pas à quel point, je ne sais pas par quelle tribulation tu passes. Tu le connais, tu connais ta situation. Mais le Seigneur te dit, il envoie son ange te dire ce soir, lève-toi, mange, lève-toi, prends des forces, je suis avec toi. Amen. Et parce que Jésus est là, je sais que je suis dans la paix. Je sais que je suis dans la paix, je suis dans ce praos, je suis dans cette douceur. Je n'ai aucune crainte et je suis dans la joie. Non pas cette joie que le monde donne, mais cette joie qui, malgré les difficultés, me font tenir. Alors que j'ai été fauché, je suis mis sur le bas-côté du chemin de la vie. Je peux encore, parce que le Seigneur est avec moi, parce qu'il prie pour moi, parce qu'il veut intervenir dans ma vie, je peux continuer à marcher sur le chemin du bonheur. Amen. Le Seigneur nous appelle à maîtriser nos émotions dans le cadre de nos relations avec les autres. Deuxième sens de praos, le Seigneur veut nous donner cette paix avec laquelle nous pourrons affronter les difficultés dans nos vies. Et troisièmement, il y a cette idée de souplesse, de flexibilité, de malléabilité, la douceur. La douceur renferme également ce troisième sens. Prenons l'image du potier. Et on chante ce chant, hein, je suis l'argile, tu es le potier. Et c'est vraiment ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur, c'est le potier. Il nous façonne. Il y a des fois des aspérités, mais il sait pourquoi il y a ces aspérités. Il y a des fois des bosses. Lorsque vous voyez comment le potier travaille, il y a certains ouvrages qui ont des bosses. Mais le Seigneur sait pourquoi. Vraiment, cette idée de souplesse, c'est vraiment celle qui, tout en s'appuyant sur Dieu, sait que malgré tout ce qui peut arriver, malgré les changements qui peuvent intervenir dans sa vie, il sait, il se laisse emporter entre les bras de Dieu. Il se laisse souple, malléable, flexible. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. C'est cette même souplesse de cœur que l'apôtre Paul a eue lorsqu'il a déclaré aux Philippiens, Philippiens 4, verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à être dans la disette. » Que ce soit l'abondance, que ce soit la disette, que ce soit dans l'humiliation, que ce soit dans la gloire, merci Seigneur. Job, connais l'histoire de Job. Sa femme vient lui dire, mais maudit ton Dieu. Et Job va lui répondre en disant, non, je ne maudirai pas mon Dieu. Parce que le Dieu, dont vous trouvez ça dans Job chapitre 2, versets 9 et 10, parce que celui qui était avec moi dans les bons temps, il sera également avec moi dans les mauvais temps. Et il nous est dit au verset 10, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Troisième et dernier exemple, mes frères et sœurs, d'un cœur malléable, d'un cœur flexible, d'un praos, d'une douceur que le Seigneur attend ce soir. David, psaume 34, verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je ne bénirai pas l'Éternel simplement lorsque je gagnerai au loto. Je ne bénirai pas simplement l'Éternel lorsque je suis en bonne santé, mais je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Ceux qui ont le cœur souple ont appris à compter sur Dieu, quelles que soient les agitations qui les entourent. Et Dieu nous donne cette capacité extraordinaire, au-delà de l'ordinaire, pour faire face au bouleversement inévitable de la vie. Et alors, les gens qui sont autour de toi demanderont, mais comment il a fait pour passer par cette difficulté et qu'il ne soit pas dépressif? Comment il a fait pour passer par cette tribulation et qu'il n'ait pas eu envie de se suicider? Parce que Dieu te donne cette capacité extraordinaire pour faire face à cette situation. Alors nous pouvons chanter ce chant, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Alors que je vais conclure, nous avons vu la douceur. Ce n'est pas être faible. Nous avons vu ces trois aspects de la douceur, le praos, la gestion de nos émotions. Nous avons vu également comment le message que Jésus voulait faire passer à cette foule, c'était véritablement, il cherchait en eux des hommes et des femmes qui ont cette paix, qui malgré les difficultés, sont capables de tenir bon. Des hommes et des femmes qui sont capables de se laisser littéralement entre les mains de Dieu, être flexibles, malléables, souples. Cette douceur-là, mes frères et sœurs, je l'ai dit à plusieurs reprises pendant ce message, ce n'est pas dans notre nature, ce n'est pas dans la nature humaine d'avoir toutes ces qualités. Elle se cultive et elle se développe avec notre marche avec le Seigneur. Parce que Dieu nous donne par sa grâce, Dieu est un Dieu de grâce, et il veut être avec nous ce soir pour nous donner toutes ces trois qualités de la douceur qu'il invoque vis-à-vis de cette foule. Lisons ensemble Matthieu chapitre 11. Regardez ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 11. À tous ceux ce soir qui sont fatigués, à tous ceux ce soir, je parle à toi, qui passent par des moments difficiles, regarde ce que dit celui qui est doux et humble par excellence. Regarde ce qu'il dit dans Matthieu 11, verset 28. Il dit quoi ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je suis doux et humble de cœur. Il se trouve que c'est le même terme ici en grec, c'est le terme praos qui est utilisé. Je suis doux et humble de cœur et je vous donnerai du repos pour mon âme. Amen. Le Seigneur veut te donner du repos. Lui qui est doux et humble, le doux et le humble par excellence. Je ne pourrais pas terminer ce message sans évoquer très rapidement la dernière partie du verset. Parce que nous avons lu Matthieu 5, verset 5. « Heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Il y aurait beaucoup à dire en fait sur la terre. Mais juste, je vous passais deux, trois messages en conclusion. Il y a deux idées. Hériteront la terre. La première idée, héritage. J'ai plusieurs fois évoqué le terme de grâce. Qu'est-ce qu'un héritage si ce n'est une grâce en quelque sorte ? Vous savez, un héritage, on n'a pas travaillé pour. On a par filiation, on a des parents qui nous lèguent quelque chose, des fois c'est 1 000, des fois c'est 10 millions, des fois c'est 100 millions, pour les plus chanceux. Mais c'est une sorte de grâce. Et Dieu dit, ils hériteront la terre. Il y a une idée de grâce. Dieu est un Dieu de grâce et il veut te combler. La deuxième idée, c'est hériteront le pays. Or, Dieu parlait à une foule qui était à l'époque, qui n'avait pas une vie citadine comme nous l'avions. Et ce qui était considéré comme un effet de richesse, c'était vraiment ceux qui avaient des terres. Et là, Jésus est en train de dire, hériteront la terre. Mais au-delà de la terre physique que cela représente, il y a une autre chose, beaucoup plus importante, que Jésus veut faire passer comme message. Il veut dire, je vais vous donner mes bénédictions. Mes bénédictions ici-bas, mes bénédictions également célestes. Parce que dans le chapitre 5, le 12e verset que nous avons lu, regardez comment les béatitudes se terminent. Matthieu chapitre 5, verset 12. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Oui. La douceur a un but. C'est parce que, in fine, notre récompense sera grande dans les cieux. Et regardez, pour terminer, nous allons lire le Philippiens 4, versets 5 et 6, où l'apôtre Paul écrit aux Philippiens et il dit la chose suivante, et c'est vraiment ma prière pour chacun de nous ce soir. Paul dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et il dit quoi ? Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen.